Chapitre 20. Épitaphe pour un poète. La mort d'un artiste est le moment de sa transfiguration. Il y en a beaucoup qu'on croyait grands, dont l'œuvre pourtant retourne tout de suite à la poussière. Pour d'autres, au contraire, l'état glorieux ne commence qu'avec la mort. C'est peut-être, comme disait Delacroix, qu'en art, tout est affaire d'âme. On ne parvient pas encore à se mettre d'accord sur le sens et la valeur de ce petit mot. Mais s'il en fallait donner une idée sensible, rien ne la fournirait mieux que la musique. Un cri manifesté l'a dénommé Wagner. Cela signifie sans doute l'expression la plus spontanée de soi. L'artiste est celui qui a besoin de donner forme à son cri. Chacun ne s'y prend pas de la même manière. À une vie somptueusement dépensée, comme celle de Liszt, s'oppose celle de Chopin, toute réservée, qu'aucune main n'a su cueillir, mais d'autant plus chargée en parfum. Tout ce qui n'a pas livré, son amour que personne n'a pris, ses pudeurs et ses timidités, cette continuelle fièvre de perfection, ses élégances, ses nostalgies d'exilé, et jusqu'à ses moments de communication avec l'inconnaissable, tout cela est resté en puissance dans son œuvre. Tel est encore aujourd'hui le secret de sa force. La musique reçut ce que femme et homme dédaignèrent. C'est pour elle qu'il se refusa. Comme on comprend la désolation de Chopin lorsqu'il apprit la mort du cygne, et cette belle image jaillit spontanément sous sa plume. L'âme de la musique a passé sur le monde. C'est bien là ce que devaient obscurément sentir les foules qui se pressaient au temple de la Madeleine, le 30 octobre 1849. Il avait fallu 13 jours pour préparer ses funérailles, qu'on voulut aussi solennel que la vie du mort le fut peu. Il n'était pourtant même pas chevalier de la Légion d'honneur, ce monsieur Frédéric Chopin. N'importe. La nature avait un air de fête, rapportent les journaux. Beaucoup de belles toilettes, il en aurait été flatté. Toutes les sommités du monde musical et littéraire, Meyerbeer en tête, Berlioz, Gautier, Janin. Il ne manquait que Georges Sand. Monseigneur Daguerry, le curé de la Madeleine, mis 2 semaines à obtenir la permission de faire chanter des dames dans son église. C'est aux obsèques de Chopin qu'on doit cette tolérance. Il eût été impossible sans cela de donner le requiem de Mozart. L'orchestre du conservatoire l'exécuta, dirigé par Giraud. Les solistes étaient dissimulés par une draperie noire derrière l'autel. Pauline Viardot et Madame Castellan, Lablache et Alexis Dupont. Lefebvre Velly tenait l'orgue. À l'offertoire, il joua 2 préludes, celui en mi mineur, numéro 4, et le 6e en si mineur, composé à Majorque, en ce crépuscule où Chopin avait vu la mort tandis que la pluie tombait en rafale sur la chartreuse de Valdemosa. Le cercueil fut descendu ensuite au milieu de la multitude, pendant que retentissait pour la première fois la marche funèbre fameuse, orchestrée par Reber. Les cordons du poêle étaient tenus par le prince Czartoryski, Franchomme, Delacroix, et Gutmann. Meyerbeer marchait derrière le corbillard. On se mit en route par les boulevards pour le cimetière du Père-Lachaise. C'est là que le corps de Chopin fut enterré, son cœur excepté, qu'on envoya à Varsovie, où il est resté depuis, dans l'église de la Sainte-Croix. Beau symbole qui convient à ce cœur fidèle. Aucun discours ne fut prononcé. Dans les minutes de recueillement qui suivirent la descente de la bière, on vit une main amie jeter sur le cercueil cette terre polonaise qui avait été remise à Chopin le jour où il quitta sa patrie. Il y avait exactement 19 ans de cela. Pendant toutes ces années, la poussière natale était restée dans la coupe d'argent, attendant ce suprême emploi. Or, maintenant, il n'existait plus de Pologne, plus que cette fine poignée de terre, et l'œuvre de Chopin. Quelques cahiers, quelques 20aines de pages où allait brûler, pendant 3/4 de siècle, la mystique d'une nation. Le 17 octobre suivant, en 1850, Miss Stirling alla dès le matin chez la fleuriste Michon, fournisseur de Chopin, et acheta tout ce qu'elle put trouver de violettes. Puis elle se rendit au Père Lachaise et les déposa sur la tombe, ainsi qu'une couronne au nom de la famille du mort. À midi, la messe fut célébrée dans la chapelle du cimetière. Les assistants retournèrent ensuite sur la tombe, où le monument de Clessinger fut dévoilé. C'est une médiocre allégorie, faite par un homme qui haïssait Chopin. Comment une telle chose aurait pu être belle? Le médaillon seul a un peu de vie. Ces mots sont gravés sur le socle. à Frédéric Chopin, ses amis. Le député Wolofsky voulut prononcer un discours, mais sa gorge se serra et l'on n'entendit rien. Tous ceux qui se trouvaient réunis là avaient été les amis du mort. Ils écoutaient encore sa voix, son piano, sa toux de poitrinaire. L'un d'eux se souvint de l'une de ses paroles.
« Nul ne peut m'ôter ce qui m'appartient. »
Aujourd'hui, ses restes battus de la pluie, cette piètre muse penchée sur sa lyre aux cordes brisées, se marie assez bien aux arbres du Mont-Saint-Louis. Il y a des promeneurs dans ce parc des morts. Ils s'arrêtent devant le buste de Musset, l'amant joli garçon qui mettait de si charmantes rimes à ses douleurs. Ils font un petit pèlerinage au mausolée d'Héloïse et d'Abélard, où une abbesse dévotieuse a fait graver ces mots. L'amour qui avait uni leurs esprits pendant leur vie et qui se conserva pendant leur absence par les lettres les plus tendres et les plus spirituelles, a réuni leurs corps dans ce tombeau. Cela rassure les amants silencieux qui viennent à la dérobée jeter une fleur au pied de ces deux symboles de pierre couchés parallèlement. Mais on ne voit personne dans l'étroite allée qui conduit de l'avenue centrale vers la tombe de Chopin. C'est qu'il n'a pas fourni une grande carrière d'amoureux, ce musicien des âmes. Il ne s'en est montré aucune accordée à la sienne. Il n'a jamais trouvé son luthier. Ce mot me fait souvenir d'une lettre qu'il écrivit à Fontana 14 mois avant de mourir, et dans laquelle il jette quelques lumières sur ses profondeurs.
« Le seul malheur, dit-il, consiste en ceci, que nous sortons de l'atelier d'un maître célèbre, quelque Stradivarius sui generis, qui n'est plus là pour nous raccommoder. Des mains inhabiles ne savent pas tirer de nous des sons nouveaux, et nous refoulons, au fond de nous-mêmes, ce que personne n'en sait tirer, faute d'un luthier. »
Voilà une belle épitaphe pour un poète. Mort, faute d'un luthier. Mais où est-il, le luthier de notre vie ?